On fait un react. Voilà, c'est le premier react de la chaîne. Il faut un début à tout. Et si j'ai envie de faire ce react, c'est parce qu'il y a 3 semaines, un mois à peu près, il y a une vidéo qui est sortie sur une chaîne YouTube qui s'appelle Like Stories of Old, qui est une chaîne YouTube dédiée aux essais vidéo au cinéma. Et cette vidéo s'appelle Why Movies Just Don't Feel Real Anymore. Pourquoi est-ce qu'on ne ressent plus les films comme aussi réels qu'on les ressentait avant? Pourquoi ils nous semblent artificiels d'une manière qui est très difficile à expliquer? Cette vidéo m'a beaucoup, beaucoup interpellé parce que, comme vous le savez, la manière dont on perçoit les films, les séries, et la manière dont on perçoit les images au sens large et comment cette perception évolue, c'est un truc qui m'obsède depuis des années et qui sous-tend tout ce que je vous propose sur la chaîne et ailleurs. Quand on a fait le diptyque Le cinéma c'était mieux avant avec la séance de Marty, cette question, elle était partout. Et cette vidéo de Like Stories of Old, que je vais appeler Tom, pas parce que c'est un nom de code, mais parce que le mec s'appelle Tom, elle a eu un succès énorme. En 3 semaines, elle a fait quoi, 3 millions de vues, ce qui est absolument énorme pour ce genre de format. Ce qui montre 2 choses. Déjà que l'algorithme de YouTube, décidément, est incompréhensible. Et que cette question touche beaucoup de gens. Je pense que ça titille quelque chose qu'on est très nombreux à ressentir, cette sensation, sans arriver à mettre le doigt sur le pourquoi du comment, cette sensation que les images dans les films et séries deviennent de plus en plus artificielles et qu'on a de plus en plus de mal à s'immerger à l'intérieur. Du coup, c'est une vidéo qui est intéressante, mais qui est aussi assez incomplète. Donc c'est une vidéo sur laquelle j'ai des choses à dire, mais aussi et surtout des choses à redire. Et en même temps, quand tu fais une vidéo comme celle de Tom, tu fais pas cette vidéo autrement que pour amorcer une discussion. Donc avec ce react, c'est ce que je fais. Je relaie la discussion en y portant ma petite pierre. Et après, bah, ça sera à votre tour. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de toute cette thématique, en quoi vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Je vous conseille bien entendu de voir sa vidéo d'abord. C'est pas obligatoire parce que là, je vais la résumer de manière assez succincte. Mais bien entendu, c'est mieux si vous la voyez d'abord. C'est une vidéo qui est en anglais. Mais de ce que j'ai vu, les sous-titres sont plutôt bons, donc même si vous parlez pas anglais, vous pouvez l'avoir. Mais avant toute chose, il y a des cadeaux pour Noël. Le 5e numéro de la revue Estrange, dont je suis le rédacteur en chef, est sorti il y a un peu plus d'un mois. J'en suis très très fier, c'est sur la thématique de l'apocalypse, point d'interrogation, et comme d'habitude, vous avez plein d'articles thématiques, des expériences, des portfolios d'artistes, des interviews, bref, c'est un beau bébé, il est disponible un petit peu partout dans les enseignes culturelles, mais vous pouvez aussi le commander en ligne, et je vous mets les liens dans la description. Et Écran Noir est sorti aussi récemment chez Hachette, c'est un ouvrage écrit par Éric Libio concernant les histoires vraies derrière les films d'horreur qu'on connaît ou ceux qu'on connaît moins. J'ai écrit préface et postface dans ce bouquin, c'est un très bel objet lui aussi, et voilà. Ça fait de très chouettes cadeaux, je dis ça. Écoutez, on attaque la vidéo, c'est parti. Alors, ce bon Tom commence sa vidéo en comparant 2 séquences, l'une du dernier Jurassic World et une du Monde Perdu de Steven Spielberg. Et c'est comme ça qu'il pose sa thèse, il met ses séquences côte à côte et dit « Mais comment ça se fait que quand on voit le Monde Perdu de Spielberg, on a l'impression d'un environnement tangible qu'on pourrait nous-mêmes explorer ? Il y a une dimension vraiment assez sensorielle où on a l'impression de pouvoir toucher les feuilles des arbres. Tandis que quand on voit la séquence de Rebirth, le dernier Jurassic World, on a l'impression d'une sorte de carte postale sursaturée et d'un environnement qui est artificiel, complètement artificiel, au point où on a l'impression qu'il est tourné en studio, alors qu'une bonne partie n'était pas du tout tournée en studio. Qu'est-ce qui fait que les images ont évolué dans cette direction? Donc voilà, il pose sa thèse avec ces 2 extraits, et toute sa vidéo en fait s'articule autour de 3 points principaux. Le premier point, c'est le point fort, je trouve, de la vidéo. Il parle de l'épidémie, aujourd'hui, de plans artificiels. Voilà, il met des exemples de Electric State, Deadpool et Wolverine, Wicked, Indiana Jones 5, enfin, voilà. Le principal facteur qui explique ça, qui met en avant, c'est le fait que l'industrie du cinéma et l'industrie audiovisuelle au sens large aujourd'hui est dans une fuite en avant. Une industrie qui surproduit du contenu, de plus en plus de contenu, en saturant le marché et en laissant de moins en moins le temps à ses créatifs pour prendre des décisions tranchées, pour s'approprier le matériau. Et ce qui fait que il y a un truc qui se normalise de plus en plus, c'est le fait qu'au tournage, on prend de moins en moins de décisions tranchées, notamment visuellement, pour prendre toutes les décisions importantes finalement en post-production. Parce qu'aujourd'hui, on a des outils de post-production qui permettent des choses absolument incroyables. Mais le truc, c'est que y a beaucoup de plans finalement au tournage qui sont tournés avec une lumière extrêmement plate, avec des valeurs de plans qui seront très basiques finalement, qui disent pas grand-chose. Souvent, bien entendu, sur fond vert ou sur fond bleu, pour pouvoir tout remanier et faire évoluer le projet en post-prod, pour avoir le maximum de latitude en post-prod. Ce qui donne des films qui ont extrêmement peu de personnalité dans les visuels et qui se ressemblent tous, forcément. Voilà, Tom illustre ça en parlant de l'épidémie de plans moyens où les personnages sont vraiment détachés de l'arrière-plan. L'arrière-plan qui est un petit peu flou, justement pour pouvoir changer cet arrière-plan comme on veut en post-prod. C'est un truc qu'on voit, par exemple, je sais pas si vous vous souvenez de la première bande-annonce de Thor Ragnarok, où Cate Blanchett pète le marteau de Thor. On voit ce plan se dérouler dans une ruelle. À l'origine, c'était censé se dérouler dans une ruelle, dans une ville, voilà. Et quand on voit le film, cette scène entière se passe en bord de mer. Environnement complètement différent. Et c'est pas comme s'ils avaient retourné des trucs, c'est les mêmes exacts plans qui ont été filmés sur fond vert pour ensuite pouvoir remanier le truc. Donc voilà, dans ce genre de contexte, tout a l'air de devenir absolument interchangeable parce que les plans sont surtravaillés en post-prod, tous de la même manière, avec la même pipeline, parce que de toute façon, il n'y a pas le temps de reconsidérer cette manière de travailler les plans et finalement, tout développe la même esthétique qui est assez basique et pas très intéressante. Et je suis plutôt d'accord avec cette partie de la vidéo parce que c'est une évidence aujourd'hui. J'ajouterais que pour moi, il y a vraiment un paradoxe intéressant, c'est le fait que la grammaire de base du cinéma, c'est-à-dire champ contre champ, gros plan, plan large, enfin voilà, les trucs de base. Dans ce contexte-là, sont devenus de plus en plus simples, voire simplistes, parce que cette grammaire de base est utilisée vraiment pour entrer à la chaîne de l'image, tourner, faire ce qu'on appelle du coverage, donc vraiment filmer les scènes sous tous les angles, et ensuite on verra au montage. Et pourtant, la grammaire de base du cinéma, bien utilisée, intelligemment utilisée, ça peut être fascinant. Je prends toujours cet exemple, mais quand on voit la manière dont, par exemple, les frères Cohen utilisent les champs contre champs dans leur filmographie juste pour en tirer une sorte d'atmosphère humoristique décalée, c'est génial.
Shut up! Okay, then.
Mais aujourd'hui, c'est vrai que le simple devient de plus en plus simpliste, et de l'autre côté, la grammaire plus étoffée, on va dire, ce que permettent les dernières évolutions technologiques, les mouvements de caméra impossibles, les trucs, les machins, ça, la grammaire la plus étoffée devient de plus en plus étoffée et de plus en plus incroyable. Et justement, elle devient de plus en plus incroyable au sens premier du terme. Qu'on soit du côté de la grammaire plus simple, qui est utilisée de manière mécanique, donc qui a du mal à immerger le spectateur, et la grammaire plus incroyable, parce qu'elle elle fait pas écho à notre réel, dans les deux cas, en fait, on n'est pas immergé. Tout ça, c'est vraiment, vraiment ironique, parce qu'on pourrait se dire que l'évolution des caméras numériques qui deviennent de plus en plus performantes, de plus en plus précises, au contraire, devrait capter le réel, ou une sensation de réel, de manière beaucoup plus intense. Mais pourtant, c'est pas vraiment le cas. Et il y a un truc dans la surprécision des caméras qui est difficile à manier et difficile à travailler. Surtout, je le vois sur des cinéastes comme Tim Burton ou Guillermo del Toro. Je trouve que leur cinéma, quand il est passé au numérique, il a vraiment perdu quelque chose. Je prends ces deux exemples parce qu'ils sont un petit peu extrêmes. Ces deux personnes qui sont vraiment, dont les références sont issues du cinéma argentique. C'est des gens qui ont grandi dans les cinémas de quartier avec de la péloche abîmée, des vieux films qui sortaient de nulle part. Enfin bref, il y avait une esthétique imparfaite. Et quand ils sont passés au numérique, je trouve que cette surprécision des caméras, ce côté chirurgical clinique des caméras, de la plupart des caméras numériques, ça leur a vraiment posé un problème. Tom, dans sa vidéo, case quelques extraits du Frankenstein de Del Toro, mais il n'en parle pas vraiment. Mais je trouve que Frankenstein, c'est un très très bon exemple. Del Toro, c'est un mec que j'adore. J'adore le personnage, j'adore son univers de cinéma, j'adore sa démarche et sa mentalité. Mais depuis Crimson Peak, j'arrive plus avec son cinéma. Vraiment, j'ai énormément de mal. Dès le début, quand ça se passe au Pôle Nord, j'ai trouvé que c'était un enfer visuellement. C'est d'une artificialité qui est dingue. Et pas le côté artificiel du « ouais, c'est tourné en studio, c'est factice, comme un vieux film de la Hammer peut être factice et a du charme grâce à ça. » Non, là, c'est factice parce que c'est pas censé être factice. Et la surprécision des caméras donne cette impression de dégueulis numérique. Alors que c'est un comble absolu parce que les films de Del Toro regorgent de set design, de costumes et de trucs en dur qui sont magnifiques. Et pourtant, je trouve ça complètement desservi par le traitement de l'image. Le deuxième point que Tom aborde dans sa vidéo, c'est ce qu'il appelle indexicality. C'est, je sais pas, on pourrait le traduire par indexation. Pour prendre l'exemple qu'il prend pour expliquer ça, par exemple, une trace de pas, c'est l'index d'un pied. Voilà, le pied qui a laissé la trace. Donc, index icarici, la manière dont il utilise ce concept, c'est pour dire, peut-être, une partie de la sensation de réel qu'on avait en regardant certaines choses, c'était aussi lié à la pellicule. Parce que la pellicule capte physiquement la réalité de ce qu'elle est en train de filmer. C'est vraiment imprimé sur la pellicule. Tandis qu'au numérique, c'est converti en données. Voilà, c'est pas le même rapport direct, physique, de captation des images. Sauf que pour moi, là, ça n'a aucun rapport avec la sensation de réalité qu'on aura ou non. À moins de savoir comment fonctionne le cinéma en argentique, la pellicule et tout ça, il n'y a rien dans le cinéma argentique ou le cinéma en numérique qui rattache l'un ou l'autre plus du réel qu'on voit. Que ça soit le grain argentique ou le bruit numérique, il n'y a pas du grain argentique qui nous passe devant la tronche dans la vie. Du coup, ça, c'est un argument qu'il utilise très rapidement pour dire finalement, lui-même dit que ça n'explique rien. Voilà. Et d'ailleurs, Jurassic World, le dernier, est un très bon exemple parce qu'il a été tourné en pellicule et il a la même gueule de dégueulé numérique que tous les autres blockbusters interchangeables. Le troisième et dernier point que Tom évoque, c'est ce qu'il appelle haptic visuality, la visualisation haptique. En gros, c'est assez simple, c'est juste la manière dont une image va pas juste solliciter la vue et l'intellect, elle va solliciter une sensation de toucher, de goût, d'odeur, c'est quelque chose qui va évoquer des sensations. Voilà. Ça va pas plus loin que ça, effectivement. Je suis d'accord, quand des personnages font frout-frout et qu'il y a un bon sound design, bah oui, ça donne l'impression qu'on peut faire frout-frout nous-mêmes. Voilà. C'est ce qui fait, par exemple, que, bizarrement, il a l'air de faire beaucoup plus chaud dans Predator 2, à Los Angeles, que dans Dune. Un problème, parce que personne ne transpire dans Dune. La sensation de la physicalité des choses, de comment le toucher, un corps réagit, quand un film est attentif à ça, forcément ça crée une sensation de réel qui est beaucoup plus fort. Bref, le résumé de cette vidéo de Like Stories of Old, c'est que c'est la faute du numérique. Sauf que c'est pas la faute du numérique, mais quand même un petit peu. Voilà. Bon, je suis un peu mauvais soin, la vidéo est plus intéressante que ça, mais fondamentalement, c'est ça qui est dit. Donc voilà, comme vous le voyez, il y a pas mal de points intéressants qui sont avancés, mais j'ai quelques problèmes avec cette vidéo. Le premier, c'est que Tom ne précise pas de quel type de film il parle. C'est vraiment très très vague. Les exemples récents qu'il prend sont tous issus vraiment des blockbusters les plus factices récents qui soient sortis. Donc oui, forcément, on est sur cette esthétique-là. Et les exemples plus vieux qu'il prend pour parler d'un cinéma qui semblait plus réel, eux sont un peu plus variés. Ça prend des exemples de Tarkovsky, ça prend des exemples du côté de Chez Friedkin, avec Sorcerer, et ainsi de suite. Mais il y a une sorte de vague qui persiste. Quand on a fait Le cinéma, c'était mieux avant avec Marty, on parlait du cinéma en tant qu'expérience partagée, au sens où elle s'est formée au XXe siècle, vraiment au sens où elle a habité l'imaginaire collectif, au sens où elle était partagée à grande échelle. Et c'est pour ça que dans Le cinéma, c'était mieux avant, comme on l'a précisé à de nombreuses reprises dans la vidéo, on prenait surtout des exemples venant du cinéma grand public. Parce qu'on parlait de cette dimension collective et comment elle a évolué et comment aujourd'hui, dans une ère de la fragmentation, toutes ces questions se posent. Et c'est bien pour ça que la vidéo ne s'appelait pas « Les films, c'était mieux avant ». Elle s'appelait « Le cinéma, c'était mieux avant ». Et là, du coup, la vidéo de Tom, elle s'appelle « Pourquoi est-ce que les films ne semblent plus réels ?». Du coup, il y a cette espèce d'imprécision qui donne lieu à un milliard de contre-exemples. Et lui-même en a conscience, parce que chaque fois qu'il avance un argument, il te sort les 12 contre-exemples à ça, ce qui annule l'argument en lui-même, tout en prenant du recul, c'est assez bizarre. Un autre souci, mais là c'est plus personnel, c'est quelque chose qui est devenu un gros trope des essais vidéo sur YouTube. C'est ce que j'appellerais l'argument d'autorité détourné. Là, en l'occurrence, Tom, dans sa vidéo, fait référence à pas mal d'auteurs, des auteurs extra-YouTube, bien entendu, et certains ouvrages, et c'est tout à son honneur, et on ne conseillera jamais assez de trucs à lire, et c'est très bien, il a fait sa recherche, mais la manière dont il les cite, la plupart du temps, c'est pas pour complémenter ce qu'il dit ou pour offrir un contrepoint à ses propres arguments. La manière dont il utilise ses citations, c'est pour reformuler ce qu'il vient de dire, mais avec des mots plus compliqués, ce qui donne un aspect de crédibilité à ce qu'il dit. T'as une approche qui est humble dans le fait d'en appeler à d'autres points de vue, mais finalement, tu les traites pas comme d'autres points de vue. Tu les prends juste comme un biais de confirmation. Là, par exemple, à 16 minutes et quelques, il utilise une citation de Laura Marx qui dit, grosso modo, « Le film n'est pas seulement une activité intellectuelle, mais implique aussi une perception complexe de l'ensemble du corps. Cette manière d'approcher la perception implique une attitude envers un film qui n'est pas seulement quelque chose qui doit être analysé et déchiffré pour donner son sens, mais comme quelque chose qui a un sens en soi. Je résume, un film, ça fait pas juste réfléchir, ça fait ressentir. Après, je dis pas que ce que dit Laura Marx, l'autrice en question, est aussi simpliste. Je suis sûr que, mis dans le contexte de ce qu'elle raconte dans le bouquin, ça va plus loin que ça. Mais la manière dont la citation est utilisée, c'est juste pour dire ça. Et d'ailleurs, quitte à aller chercher des auteurs pour parler de la dimension du réel au cinéma, vu la démarche du mec, je suis quand même surpris qu'il soit pas allé chercher un petit peu du côté de chez André Bazin. C'est un peu tarte à la crème, mais en même temps, c'est compliqué de faire l'impasse sur Bazin, vu que, enfin, il a dit tellement de choses qui sont considérées comme un socle pour absolument tous les auteurs derrière qui ont parlé du réel au cinéma. Bazin, pour simplifier de manière assez ouf, qui parle grosso modo du mythe originel du cinéma, qui est le mythe de la captation totale et objective de la réalité. Et Bazin décline ça en parlant vraiment aussi du travail à l'image que ça implique, avec des focales utilisées qui doivent être assez larges pour vraiment émuler la sensation du regard, finalement, avec un montage qui doit se faire très minimaliste pour couper le moins possible cette sensation d'un continuum de réalité. Enfin bref, il y avait plein de choses qui ne sont pas juste théoriques, mais qui sont vraiment applicables à tout ce dont Tom parle. Je suis assez surpris qu'il ne soit pas allé le chercher. Mais surtout, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce react, c'est qu'il manque une chose énorme à la vidéo, c'est le son. Et c'est pas comme si l'immersion qu'on ressentait dans un film ou dans une série passait à moitié par l'image et à moitié par le son. Il y a plein de gens qui bossent dans l'industrie justement sur ces dimensions très techniques qui vous diront que le son, mais c'est genre mais 80 voire 90% de l'immersion. Dans la foulée du gros succès de sa vidéo, Tom a fait sur sa chaîne secondaire une vidéo pour parler de ça, pour remercier les gens et pour parler un tout petit peu aussi de ses choix d'analyse et pourquoi il y a certains trucs dont il a moins parlé et machin. Et il mentionne le son, mais il le mentionne pendant genre 20 secondes en disant juste « Ouais, il y a aussi le son, ça joue. » Et tu dis « Mais mec, mec, non, pas juste ça, c'est pas que ça joue, c'est que c'est encore plus important que l'image, par bien des aspects. » Dire chez l'essentiel des gens, quand on écoute une musique qui est assez évocatrice, énormément de gens vous diront « J'ai des images qui me viennent en tête. Putain, j'écoute cet album, j'ai un film vraiment qui se déroule dans ma tête. » Le contraire est beaucoup plus rare. Le son, par bien des aspects, est bien plus évocateur et bien plus cinématographique que l'image. C'est assez paradoxal, mais c'est le cas. Au niveau de l'importance du son, il y a plein d'exemples à citer sur un cinéma qui est très sensoriel. Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. C'est un des films les plus sensuels que j'ai vu de ma vie et qui est extrêmement dans la retenue. Il y a ce côté charnel dans le travail de l'image et du son qui se complètent super bien. Le cinéma de Tarkovsky, bien entendu, avec toute cette dimension du toucher, du temps qui passe. Et c'est un travail du son qui souvent est minimaliste, mais exactement là où il faut pour saisir vraiment ce côté charnel aussi. Le truc, c'est que le sound design et le travail du son, ça n'a jamais été aussi abouti qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des instruments d'une puissance et d'une finesse pour travailler le son. C'est incroyable et on ne s'en rend pas compte, en fait, à quel point l'espace sonore dans les films et les séries qu'on voit aujourd'hui est occupé. Tout est bruité, tout est augmenté. Il y a 40 ans, une scène de film qui aurait eu, on va dire, 5-6 pistes superposées dans sa bande sonore, aujourd'hui, l'équivalent, c'est 500 pistes sonores. Mais même dans un film intimiste, même dans des films où on ne s'en rend absolument pas compte. Récemment, j'ai vu The Long Walk, l'adaptation de Stephen King, qui est vraiment cool. Ayant lu le bouquin, ils ont vraiment capté l'âme du bouquin tout en faisant des changements qui sont tout à fait justifiés. Enfin bref. Et je sais pas si c'est la version que j'ai, mais pendant 4 secondes à un moment du film, à peu près aux 3 quarts du film, c'est comme si, par mégarde, il y avait une piste son qui avait été effacée du mix final. Et pourtant, c'est une scène tout à fait normale, c'est juste un mec qui marche et qui va rejoindre ses potes. Et c'est comme si tous les bruits de marche, d'étoffe et de mouvement du corps avaient été enlevés. Et pourtant, c'est même pas des trucs auxquels on pense en termes de bruitage. On les imagine là parce qu'ils sont là et on est habitué en fait à entendre ces sons constamment. Et c'est là à quel point tu te rends compte du vide que ça laisse. Attendez, je vous montre la scène.
Hey, my nose. My nose won't stop bleeding.
Et dès qu'il arrive et que les gens la grippent, soudainement, t'as tout le design sonore qui reprend ses droits et qui est là. Aujourd'hui, dans tous les films et toutes les séries qu'on voit, et dans tous les contenus et toutes les images qu'on voit, L'espace sonore est rempli à craquer constamment, même dans les moments censés être les plus calmes, et ça montre bien à quel point le silence, le vrai silence, n'existe plus. Il est plus toléré. Parce que, bon, il faut capter l'attention et tout ça. Ce qui s'approche le plus d'un silence, c'est uniquement, par exemple, dans les films d'horreur, ce qui va annoncer un bruit imminent. Et à ce niveau-là, là, je trouve qu'il y a vraiment une vraie évolution dans la manière de faire les films et les séries qui est factuellement analysable. Dans cette densité sonore et ce que ça crée sur notre manière de percevoir les choses. Tout comme récemment, j'ai revu Escape from New York de Carpenter. Il y a des scènes entières, même d'action, où t'as 2-3 bruits de pas qui sont ajoutés pour Kurt Russell et d'autres personnages, mais t'as pas un milliard de bruits d'étoffes, de mouvements, de trucs, de machins. L'espace sonore est assez vide. Et encore une fois, tant que tu y es habitué, ça va. Et tout ça, ça crée un paradoxe assez bizarre. C'est que là où le son est censé créer vraiment cette dimension d'immersion et cette sensation de réel, il va tellement loin dans sa manière de constamment occuper l'espace sonore. Et bah, fort de faire ça, finalement, il ne crée pas une sensation de réel, mais plus une sensation de surréel. Il t'immerge dans la réalité du film, mais sans forcément la rattacher à ton propre réel, à ce que tu vis dans la vie de tous les jours. C'est très bizarre parce que ça devient immersif sans forcément être immersif. Et personnellement, j'adore faire du sound design, par exemple. Je pense que c'est une de mes parties préférées quand je fais de la fiction. Donc je suis assez attentif à ça. D'un côté, on a ces possibilités incroyables qui sont nées. De l'autre, on a perdu en dynamique, alors qu'on a besoin de silence pour que le bruit ait un vrai impact. Tout comme dans la manière de découper une scène, on a besoin de lenteur pour que la rapidité ait un véritable impact. Tout ça, c'est de la dynamique. Et tout ce constat, on peut l'élargir à l'image. Dans sa vidéo, Tom parle de la manière aujourd'hui dont les images sont surtraitées en post-production, sans développer plus que ça, mais il faut quand même parler de l'étalonnage numérique et comment il est abordé aujourd'hui. Aujourd'hui, que ce soit face à des films, des séries ou face à toutes les images qu'on voit sur les réseaux ou n'importe où ailleurs, on est désensibilisé d'images qui ont l'air normales. Les images normales aujourd'hui nous paraissent complètement anormales. Ça vous arrive pas de voir, je sais pas, un pote à vous qui est parti sur une île paradisiaque quelque part, qui poste des stories sur Instagram de ses vacances. Il poste des images de là où il est, et comme ça n'a pas été passé sous un milliard de filtres qui font péter la saturation, les couleurs, le truc, le machin, un FM, soudainement, tu dis « Oh putain, c'est pas très joli ». C'est fou de se dire ça, mon Dieu. Et ça tient aussi à comment fonctionnent les caméras numériques, où aujourd'hui, les films et les séries sont tournés en ce qu'on appelle les formats « RAW », RAW, c'est-à-dire une image extrêmement désaturée, extrêmement morne, mais qui capte toutes les infos visuelles pour laisser un maximum de possibilités à l'étalonnage en post-production. Et là, les images sont détournées du réel de toutes les manières possibles. On ne recrée pas juste le réel qui a été capté face caméra, on crée une sorte de surréel, encore une fois. Et tout ça, ça s'est vraiment accentué ces 20 dernières années. Si vous regardez à nouveau Le Seigneur des Anneaux, et je parle pas des remasters 2018 hein, qui ont été calqués sur l'étalonnage du Hobbit, mais si vous regardez vraiment les versions des années 2000, il y a plein de plans dont les couleurs semblent mornes, mais qui nous semblent mornes aujourd'hui, mais qui ne nous semblaient pas du tout mornes à l'époque. Parce que aujourd'hui, ce à quoi on est habitué visuellement, c'est l'étalonnage du Hobbit. Je me souviens quand j'ai découvert Le Dain, le film de Dupieux, le film a commencé, je me suis dit, mais ils ont oublié d'étalonner le film. Il y a un contre-pied total qui a été pris par Dupieux, notamment sur ce film, où l'image est absolument morne, grisâtre, pas retravaillée, ou en tout cas qui a été travaillée d'une manière à sembler pas du tout retravaillée. Et c'est comme s'il refusait en fait ce dictat de l'image surréelle, l'espèce de surréalité fantasmée auquel on est tous habitués aujourd'hui. Et autant ça m'a pris 20 minutes d'entrer dans le film, à cause de ça, autant putain ça a fait un bien fou. C'est fou, en fait, il faut rééduquer l'œil et l'oreille à revoir des choses normales. Je veux dire, c'est aussi les imperfections à l'image qui nous rapprochent du réel. Aujourd'hui, ce qui me manque dans les films, par exemple, c'est les plans d'hélicoptères qui ne sont pas ultra stabilisés comme aujourd'hui tous les drones qui font des images léchées, parfaites, lisses. J'aime bien sentir l'opérateur caméra qui fait « Oh putain !» avec sa longue focale qui essaie de choper quelqu'un sur l'hélicoptère. J'aime quand ça bouge, j'aime bien voir les coutures. Et ça te rapproche vraiment d'une notion de réel. Il n'y a pas forcément besoin d'intellectualiser quand tu regardes le film en mode « oui, l'opérateur machin ». Non, c'est quelque chose que tu ressens viscéralement. Donc pour finir, pour revenir sur la vidéo de Tom, je pense qu'il y a une dimension essentielle du sujet que tu ne peux pas séparer de nos modes de vie aujourd'hui. Et de la manière dont notre réel est malmené comme il ne l'a jamais été. Le vrai problème aujourd'hui, selon moi, sur ce sujet en tout cas, plus qu'un manque de réel, dont Tom parle dans sa vidéo, c'est vraiment un trop-plein de surréel. C'est vraiment la manière dont de moins en moins de gens aujourd'hui semblent s'intéresser au réel, tout simplement, et comment l'industrie se fait l'écho de ça. Et leur vend, sous couvert de leur vendre du réel, leur vend une sorte de surréel fantasmé, sans plus faire la distinction entre les deux. Et c'est pas un constat réjouissant. Donc voilà pour mes two cents sur la question. J'avais très envie de répondre à cette vidéo pour relayer cette discussion, qui est une discussion essentielle à avoir aujourd'hui et qui concerne vraiment notre rapport aux images et notre rapport au réel. Ni plus ni moins. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je serais ravi de lire vos débats et vos partages d'expériences à ce niveau. Et voilà, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.